Vous êtes sur RTL. Revivre ensemble.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, pas de doublé pour les handballeuses françaises. Les championnes olympiques ont échoué en finale du mondial, battues 29-22 par la Norvège. Sans plus attendre, direction Granollers dans la banlieue de Madrid, retrouver l'envoyé spécial de RTL, Jean-Michel Rascol. Jean-Michel, on ne va pas le cacher, hein, c'est une déception.
Quelle finale, quelle intensité Isabelle, avec peut-être un seul regret que les deux équipes n'aient pas élevé leur niveau de jeu en même temps. Une première mi-temps totalement pour les Françaises, une seconde pour les Norvégiennes. Des Françaises qui ont encaissé un 17-6 en deuxième mi-temps pour finalement largement s'incliner dans cette finale mondiale. C'est le quatrième titre mondial pour des Norvégiennes. Qui conjugue parfaitement ce sport qu'est le handball.
Merci Jean-Michel, on vous retrouve dans un instant. Benoît Lallemand, vous êtes le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Déception quand même. Hein.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Oui, une déception parce qu'on les sentait bien parties. Elles avaient largement dominé la première mi-temps et puis tout a basculé juste avant la pause alors qu'elles étaient en supériorité numérique. Pardon, mauvaise passe. Et puis après, tout bascule. C'est un peu triste, en même temps, on n'est pas fatigué.
Quelle année quand même.
Exactement.
Pendant cette demi-heure, de nombreux invités vont nous rejoindre. Nous serons notamment en ligne dans un instant avec une championne olympique de Tokyo, jeune retraitée des parquets, Blandine Dansette. En fin d'émission, ne manquez pas l'entretien avec Florent Manaudou réalisé cette semaine aux Étoiles du Sport. Mais auparavant, Quentin Vasselin, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Un coup d'œil du côté du football et de la Coupe de France. 5 matchs de ces 32e de finale sont en cours.
Oui, on prend tout de suite la direction de Bordeaux où les Girondins dominent le petit club venu de Mayotte, Denis Grandjou.
Oui, il y a 4 divisions d'écart entre les Girondins et ce club des jumeaux de Mayotte. 5-0 pour les Girondins avec un triplé de Niang. Ça va plutôt bien pour les Girondins, mais il y a vraiment trop d'écart entre les deux équipes.
Merci Denis Grandjou. Dans les autres matchs en cours, on approche l'heure de jeu. Cholet, club de National, tient en échec Nice 0-0. Dinan-Léon, National 3, fait également 0-0 dans le derby contre Brest. Chauvigny, National 3, mène 2-0 contre Chartres, National 2. Montauban, pensionnaire de Régional de la 7e division, défie et accroche la Roche-sur-Yon. National 3, il y a 0-0.
Des faux pas de chez les clubs de l'élite.
Oui, il y en a deux. Il y a d'abord Angers qui s'incline contre Lina Montléry, pensionnaire de National 3. Victoire 2-0 avec un héros, Pascal Leno, auteur d'un doublé qui qualifie Lina pour le premier 16e de finale de Coupe de France de son histoire. Autre grosse surprise à Bergerac, le club périgourdin habitué au National 2 est venu à bout de Metz, 0-0 après 90 minutes, mais 5 tirs au but à 4 lors de la séance de pénalty pour Bergerac. Le pénalty victorieux marqué par Houcham Mlab.
Dans les autres matchs du jour, les pros ont assuré.
Oui, victoire de Marseille 4-1 au Vélodrome contre Canet-Rocheville, 4 divisions en dessous, un triplé d'Arkadiusz Milik notamment. Dans le derby champenois, le Stade Rémois domine Reims-Sainte-Anne, club de Régional 1, le club de Robert Pires, que l'on salue, 5 divisions d'écart. Score final 1-0 pour Reims. Andrézieux perd contre Montpellier 1-0, pénalty de Savanier. Van National 2 domine tranquillement Wascal 4-0, Wascal qui évolue en National 3. Monaco l'emporte sans forcer 2-0 sur la pelouse du Red Star, un doublé de Wissam Ben Yedder. Saint-Etienne pour la première de Pascal Duprat s'impose à Lyon contre La Duchère 1-0, but d'Arnaud Nordin. Enfin, Lens domine le Stade Poitevin sur le score de 1-0, une réalisation d'Ignatius Ganago.
Suite et fin de ces 32e de finale de Coupe de France à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Allez, restez avec nous, une pause et nous repartons en Espagne.
RTL,
on refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
On refait le sport sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
29-22, le score est sans appel. La France a perdu la finale des championnats du monde contre la Norvège. On retrouve tout de suite Jean-Michel Rascol à Granollers, dans la banlieue de Barcelone. Jean-Michel, quelles sont les têtes, quelle mine affichent nos filles championnes du monde, championnes olympiques en titre, il faut le rappeler. Hein.
Eh bien, pour l'instant, elles applaudissent les Norvégiennes qui s'apprêtent à démarrer la cérémonie protocolaire. Il y a de la frustration, de la fatigue sur le visage des Françaises et ce sentiment que le titre tendait les bras à ces Bleus invaincus dans la compétition jusque-là. Elles menaient 16-10 à une minute de la pause, mais les Norvégiennes parvenaient à rentrer au vestiaire avec un déficit de 4 buts seulement. La seconde mi-temps va signer le retour des championnes d'Europe qui ne vont pas cesser d'accélérer. Leur gardienne Sidje Solsberg multipliant les arrêts. Les Françaises vont encaisser un cinglant 17 à 6 en deuxième mi-temps, visiblement émoussées. Le rêve était passé aussi vite qu'un tir en suspension d'Henry Rechtad, la meilleure marqueuse du match. Les championnes olympiques ne sont pas championnes du monde. Et malheureusement, cette fatigue, la fatigue qu'elles affichent sur leur visage, eh bien, montre aussi qu'elles sont énormément déçues.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir Jean-Michel. Comment expliquer que en une mi-temps, elles n'arrivent pas à inverser la tendance ou à réduire un peu l'écart? Elles étaient comme impuissantes face à cette résurrection norvégienne.
Il y a un moment clé, je pense, dans ce match, c'est la fin de la première mi-temps. Il y a un problème avec le chrono, le match est arrêté pendant 3 minutes. Et surtout, juste avant cela, il y a Olivier Crumbles qui demande un temps mort au moment où les Françaises sont en attaque et même au moment où l'une de ses joueuses arme son tir et pour peut-être passer à plus 7 à quelques secondes de la mi-temps. Je crois qu'il reconnaîtra après coup que c'était une erreur. Toujours est-il que ce souffle qui était engagé tout au long de la première période, eh bien, n'existait plus au retour des vestiaires. Et au contraire, la rapidité, vous l'avez vu, hein, des Norvégiennes, ces circulations de balles vraiment incroyables. Le niveau du hand féminin, d'ailleurs, c'est une parenthèse, en quelques années, c'est aussi et au moins aussi beau à regarder que le hand masculin. Eh bien, ces Norvégiennes qui conjuguent toutes les définitions, si l'on peut dire, du handball, sont passées devant. Et ensuite, ça a été un hurrah handball et les Françaises étaient visiblement dépassées, sans doute émoussées. Il faut quand même dire une chose, c'est que les Françaises invaincu avait eu un tableau très difficile alors que les Norvégiennes avaient pu faire tourner leur effectif tout au long de la compétition pour se concentrer sur les phases finales. Sans doute que cela a joué au moment de faire la différence.
Quentin Asselin, première réaction.
Oui, celle d'Olivier Crumbles qui revient sur ce match, qui le résume en quelque sorte au micro de nos confrères de Bein Sport.
J'ai pas du tout eu l'impression que les filles étaient sorties du match. On commence la mi-temps en sous-nombre et on prend des buts. Et c'est surtout ça qui nous a touché au moral. Ils sont revenus très très vite. Et ensuite, la dynamique et la qualité de jeu étaient de leur côté, la vitesse d'exécution. Bon, avec une gardienne de but qu'on n'a pas su déborder. La messe est dite
et Olivier Crumbles pense quand même que ça peut servir de leçon parce que cette équipe de France était relativement jeune.
La France reviendra plus forte, c'est aussi une bonne leçon pour les jeunes joueuses. Elles ont fait leur première finale, pour certaines c'était un petit peu difficile, pour des anciennes un petit peu de fatigue. Je crois qu'aujourd'hui il faut savoir reconnaître qu'on est vaincu par un bel adversaire et qui a été bien meilleur que nous.
Et je suis sûre que Blandine Dansette partage l'avis du sélectionneur des Bleus. Bonsoir Blandine.
Bonsoir.
Championne olympique à Tokyo, jeune retraitée des parquets, championne du monde en 2017, hein, en argent au JO de Rio, votre palmarès est long comme le bras. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale? Elles étaient fatiguées, vos copines?
Je suis triste pour elles parce que vraiment en première mi-temps, on voyait qu'elles suivaient le plan de jeu, qu'elles étaient bien dedans, qu'elles arrivaient bien à maîtriser ces Norvégiennes. Et puis en fin de première mi-temps, il y a eu quelques cafouillages, un mauvais changement. Des deux côtés, on sentait de la tension. Et puis malheureusement, elles ont pris deux buts coup sur coup, ce qui a ramené les Norvégiennes à quatre buts et qui les a relancées. Et elles sont revenues encore plus fortes en deuxième mi-temps. Elles n'ont pas douté et elles ont mis le rouleau compresseur en route. Et après, les Françaises n'ont pas réussi, malheureusement, à revenir dans le match. Et c'est dommage. Après, comme l'a dit Olivier, c'est des jeunes joueuses. Certaines jouaient leur première finale. Et il ne faut pas oublier que l'équipe de France monte sur les podiums à chaque compétition. Et c'est déjà une belle performance que d'être médaillée d'argent sur ce mondial.
C'est vrai qu'on est un peu gourmand, Benoît Lallemand. Oui, Jean-Michel.
Justement, la médaille autour du cou, c'est en ce moment même, et c'est Joël Delplanque, l'ancien président de la Fédération française de hand, qui occupe des fonctions à la Fédération internationale, qui remet ces médailles à ces Françaises qui se congratulent, qui retrouvent le sourire. Elles sont quand même vice-championnes du monde.
Benoît Lallemand le disait, on est quand même gourmand, c'est vrai. Blandine le rappelait, c'est une jeune équipe. Il y avait des jeunes intégrés avec les anciennes. Il y a une belle alchimie quand même sur ce mondial.
Oui, en effet, il y avait une belle alchimie. Il a fallu renouveler un peu l'effectif, puisque quelques championnes olympiques comme Blandine ont pris leur retraite juste après Tokyo. On a pensé que ça s'était fait de manière très efficace, puisqu'on a rêvé pendant une mi-temps à ce titre mondial. Après, j'ai une question pour Blandine. Qu'est-ce qu'il a manqué pour essayer d'arrêter ce rouleau compresseur norvégien?
Qu'est-ce qu'il a manqué? On a senti un peu moins de fraîcheur sur cette deuxième mi-temps, beaucoup plus de pertes de balles. Je crois qu'à la fin, elles sont à 17 pertes de balles, ce qui est énorme sur une finale de championnat du monde. Après, on a aussi beaucoup buté sur la gardienne Silje Solberg, qui a fait une deuxième mi-temps de feu. Elle prend que 6 buts en deuxième mi-temps. Et voilà, il nous a manqué un petit peu, peut-être un petit peu d'énergie pour être un peu plus appliqué sur les derniers gestes. Voilà, après, la compétition a été longue, il y a eu beaucoup de matchs, des matchs difficiles. En demi-finale, c'était aussi très serré. Voilà, il faut retenir quand même qu'elles ont montré un beau visage tout au long de la compétition.
Eric Barada, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez été longtemps l'adjoint d'Olivier Crumbles. Hein. Vous connaissez ce sélectionneur par cœur. J'imagine que vous aussi, vous êtes un peu déçu pour ces filles que vous connaissez parfaitement.
Oui, bonsoir. Bien sûr, un petit peu déçu comme tout le monde, mais je pense que Blandine a parfaitement résumé la situation. C'est en fin de première mi-temps qu'il y a eu une inversion psychologique. La France déroulait pendant une bonne vingtaine de minutes. Et puis effectivement, il y a eu ces incidents sur les mauvais changements et puis cette perte de balle en surnombre numérique qui amène l'occasion manifeste de but et donc 7 mètres pour la Norvège. Et je pense que là, il y a eu une inversion psychologique. Et puis les Norvégiennes ont parfaitement déroulé en deuxième mi-temps avec toutes les qualités qu'on leur connaît. Et je rejoins tout à fait Blandine sur l'idée qu'il faut aussi retenir la continuité des performances du handball féminin français et qu'un certain nombre de jeunes joueuses débutaient après dans ce nouveau cycle post-olympique et qu'être en finale des championnats du monde quelques mois après avoir conquis le titre olympique reste quand même une performance extraordinaire.
C'est vrai qu'on était arrivé sur ces championnats du monde en freinant quand même des quatre pieds, comme on dit, parce qu'on se disait elles vont être émoussées. Il y avait eu les JO, il y avait la reprise dans les clubs, quasiment derrière, sans vacances pour les filles. Donc physiquement, il fallait y aller quand même.
Oui, physiquement et puis surtout mentalement, parce qu'il y a quand même une dépression post-olympique hein, pour les athlètes, surtout quand vous avez gagné et que vous n'avez que quelques jours de vacances et que vous repartez dans les championnats. Et ces filles-là jouent au plus haut niveau, c'est-à-dire traversent l'Europe en permanence. Donc effectivement, être capable de se remobiliser aussi vite derrière les Jeux Olympiques et obtenir cette médaille d'argent reste une grande performance. Après, bien entendu, on est tous déçus parce que le niveau de compétition et la qualité du jeu qui a été produite pendant tout ce mondial nous a tous laissé espérer, et surtout ce début de match nous a tous laissé espérer qu'on allait faire le doublé JO mondial. Donc on est forcément déçu par ça, mais quand on remet un petit peu les choses en perspective, c'est quand même une énorme performance du handball féminin français.
Benoît Lallemand.
Isabelle, j'ajoute justement que Olivier Crumbles nous confiait qu'il avait trouvé des filles dépressives après leur retour des Jeux Olympiques. Effectivement, cette pression excessive les avait fait parfois partir dans un trou psychologique. Olivier Crumbles, je le signale parce que c'est assez rare pour être souligné justement, qui obtient sa 13e médaille internationale et il devient le coach le plus médaillé du hand français. Bravo à lui, il a 63 ans, il a commencé en 99 avec déjà une finale entre les Norvégiennes et les Françaises qui s'était d'ailleurs terminée de la même façon.
Benoît Lallemand.
Oui, moi j'ai une question. Est-ce que le public a pu jouer? On sait qu'à Tokyo, il n'y en avait pas. Là, il était nombreux, bruyant. Est-ce que ça peut être un élément perturbateur pour des jeunes joueuses?
On peut poser la question peut-être à Blandine dans cette.
Oui, alors...
Parce que Tokyo, oui, vous étiez dans des tribunes bien vides quand même. On entendait les chaussures crisser.
Vous étiez là, Isabelle.
Oui, on entendait bien.
Je pense qu'à Tokyo, voilà, c'était toute la saison, on avait joué dans des salles vides, donc on était un petit peu habitués. C'est vrai que c'était un petit peu triste, mais là, on avait eu la même finale France-Norvège en 2017 avec à 80% de rouge dans les tribunes pour encourager la Norvège et 20% d'autres nations pour encourager l'équipe de France. Et ça nous avait galvanisé aussi. Donc voilà, le public peut jouer, mais quand on est dans sa compétition et quand on sait ce qu'on a à faire, ça nous pousse plutôt que ça nous stresse. Donc voilà, je pense que d'avoir cette énergie venant du public, ça a plutôt aidé les filles et je pense qu'elles étaient contentes de sentir qu'on poussait derrière elles.
Quant à Vasselin.
Eric Barada, vous connaissez très bien Olivier Crumbles. La France domine son sujet dans la première période. Et qu'est-ce qui se passe à la mi-temps dans ce vestiaire pour que ce soit autant la débandade dans la seconde période?
Alors, je vous confirme que je connais très bien Olivier Crumbles. Maintenant,
qu'est-ce qu'il a pu leur dire?
Il leur a certainement dit de rester calme et maîtresse après cette fin de mi-temps qui avait été un peu chaotique, mais qui a été chaotique pour les Norvégiennes aussi, hein, parce que les Norvégiennes ont fait des mauvais changements. Enfin, je veux dire, ça a été chaotique pour les deux équipes. Mais c'est vrai que certainement, dans un temps où psychologiquement, on était dans un rapport de force favorable, ça a inversé la situation. Donc, je pense qu'Olivier a essayé de rassurer les joueuses. Bon, après, ce sont des choix tactiques. Et puis, on est dans une confrontation. Donc, ce qu'a fait Tore Raigerson de l'autre côté, je ne le sais pas plus. Mais ce qui est certain, c'est que le constat qu'on peut faire, c'est qu'au retour des vestiaires, les Norvégiennes ont fait deux minutes exceptionnelles où elles ont gommé leur retard. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit un match qui ait été perdu d'un point de vue tactique. Je pense que c'est un match qui s'est perdu sur
dans les têtes,
sur une inversion psychologique. Ouais, c'est, pour moi, c'est clairement dans les têtes qui s'est perdu, beaucoup plus que sur des aspects tactiques. Puisque bon, les aspects tactiques, on a bien vu en première mi-temps que les clés du jeu norvégien avaient été trouvées.
Je crois qu'il y a eu 11 minutes en deuxième mi-temps sans que la France ne trouve le chemin des filets. C'est assez rare. Comment on peut expliquer cette impuissance ? Alors, il y a eu un changement de gardienne, en effet. Et puis après, on a l'impression que les Françaises pouvaient faire ce qu'elles voulaient. De toute façon, ça passerait pas.
Oui, mais c'est pour ça. Moi, je pense pas que l'aspect tactique, on a eu l'impression de se retrouver effectivement impuissant. Le deuxième temps mort que pose Olivier très précocement pour essayer justement de remettre l'équipe dans le droit chemin montre bien que c'est pas du tout un aspect tactique, parce qu'à ce moment-là, les filles n'osent plus aller au but, sont sans solution, manque de jeu, sans ballon. Et c'est vraiment qu'à ce moment-là, il y a un vent de panique, la situation vous échappe. Et très sincèrement, pour avoir été de nombreuses fois aux côtés d'Olivier, et puis pour le vivre moi-même en tant que coach, il y a des moments où la situation vous échappe. En première mi-temps, elle a totalement échappé aussi à Tore Raigerson. Ça arrive à tous les coachs du monde. Et là, effectivement, les solutions sont minimes. Donc, on essaye de reprendre son équipe en main. Bon, des fois, les joueurs se reprennent très vite d'elles-mêmes. Quelques leaders arrivent à remettre l'équipe dans le sens du jeu. Là, ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour la France.
Un petit mot aussi d'un certain Daniel Constantini qui nous a rejoint, parce que Daniel Constantini, c'est celui qui a fait aimer le hand à la France entière. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Isabelle, bonsoir.
À la tête des fameux Barjots notamment, qui nous ont enchantés dans les années 90. Vous avez vu arriver Olivier Crumbles à la tête de cette équipe de France à la fin des années 90.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui fait quand même que ce coach a réussi à retranscender cette équipe qu'il a repris en main en 2016 pour l'amener au titre olympique cet été et arrive encore à galvaniser ses filles pour aller jusqu'à cet argent mondial qui ne nous satisfait pas encore une fois, mais franchement on est très gourmands aussi.
Oui, c'est vrai qu'avec cette équipe, on était devenu presque aussi gourmand qu'on pouvait l'être avec l'équipe de garçons. Ben, écoutez, Olivier Crumbles, il a réussi quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'était le roi du pétrole et de l'équipe de France féminine de handball de 98 jusqu'à 2016. Un peu brutalement, il a été
jusqu'à 2011.
Non.
2013, pardon.
Excusez-moi. Donc après, il a été écarté au prétexte que les filles ne le supportaient plus, qu'il était trop ci, qu'il était trop là. C'est vrai qu'il était plutôt directif. Mais enfin, des fois, la directivité, c'est pas que mauvais, la directivité. Donc il a été écarté. On a appelé un ancien Marjo qui s'appelait Alain Porte, qui a fait quand même du bon travail, mais qui, lui, a eu des problèmes relationnel au sein de son équipe et qui n'a pas pu durer, quoi. Et Crumbles est revenu et à ma grande surprise, et tant mieux pour tout le monde, il est revenu transformé, c'est-à-dire lui qui était autoritaire, qui avait du mal à laisser faire un petit peu à certains moments et tout ça. On a retrouvé un coach qui semblait avoir travaillé sur lui-même pendant ces années de disette pour lui, et il est revenu bien meilleur, beaucoup plus accepté par les filles, ce qui a expliqué tout d'un coup la série de bons résultats que l'équipe de France féminine a eu, plus bien sûr une génération assez exceptionnelle, hein, bon, à laquelle M. Barada n'est pas tout à fait étranger, et qui a permis finalement ces dernières années d'avoir tous ces succès, et en particulier ce qui nous est arrivé cet été, c'est-à-dire ce titre olympique à partir duquel on courait, quoi, beaucoup.
Et il est l'homme de la situation pour mener ces Bleus à un nouveau titre olympique dans deux ans et demi à Paris ?
Moi, je pense que oui, parce que c'est vrai que si on fait abstraction de ces 40 minutes d'errement, parce que moi, je dirais que les Françaises ont été superbes jusqu'à la 20e minute. Après, ça a un peu pédalé dans la choucroute, à la fois au niveau des filles, un petit peu aussi au niveau d'Olivier. Bon, il y a eu des décisions un petit peu bizarres. On a un petit peu voulu forcer le jeu et donc on a, au lieu de tourner à la mi-temps avec 6-7 buts d'avance, on n'en a eu que 4. Maintenant, 4 buts d'avance à la mi-temps, tout le monde signerait pour les avoir dans une finale du championnat du monde. Bon, ensuite, il y a eu cette deuxième mi-temps trop incroyable pour qu'on puisse penser que c'est ça le véritable visage de l'équipe de France. Non, oui, moi je pense qu'Olivier a toute la confiance à la fois de la fédération, des filles et puis de l'ensemble des supporters du handball féminin pour continuer sa route jusqu'à Paris 2024, bien sûr.
Merci beaucoup.
Isabelle ?
Oui, allez-y Jean-Michel.
Une image peut-être, non pas pour conclure, mais pour vous faire saisir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le palais olympique de Granollers. Alors, il y a les Norvégiennes qui sont derrière un panneau championne du monde, qui ont la médaille autour de cou, qui ont le trophée, qui passe de main en main. Il y a du bonheur, de la joie. Il y a aussi ce sentiment d'avoir vraiment créer quelque chose presque en deuxième mi-temps pour déborder et puis s'évader très loin des filles de l'équipe de France. Et puis de l'autre côté, à une quinzaine de mètres, derrière une autre rambarde, il y a les filles de l'équipe de France qui observent. Elles les regardent, ça leur fait envie. Il y a de la frustration certes, mais elles sont là et j'ai même déjà l'impression qu'elles prennent date parce que ces Norvégiennes sont certes très très fortes, mais l'ambition bleue est vraiment réelle et d'ici quelques années, en tout cas d'ici les prochains rendez-vous et bien sûr l'échéance olympique, ces bleus seront dans le coup, c'est une certitude.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol, merci Blandine Dansette.
Merci à vous.
Merci Eric Barada.
Merci.
Et merci Daniel Constantini. Bonne soirée à vous. Et buvez quand même un petit coup parce qu'une médaille d'argent, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Encore une
bien
fois,
sûr,
on est gourmand. Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France.
L'actualité sportive de ce dimanche, c'est encore et toujours du handball, Quentin.
Oui, parce que Nantes remporte la Coupe de France en surclassant 28-21 Chambéry. La veille, les Chambériens avaient pourtant battu le Paris Saint-Germain.
C'est aussi du biathlon au Grand Bornand. Émilien Jacquelin a remporté la Mastart cet après-midi.
Oui, un succès dans cette première course en ligne de la saison qui permet au biathlète tricolore d'enfiler le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. Jacquelin termine devant Quentin Fillon-Maillet, auteur d'un magnifique week-end après son succès de la veille dans la poursuite au Grand Bornand, les Alpes françaises. Alors forcément, Émilien Jacquelin était très heureux à l'issue de la course.
J'ai peu de victoires, c'est ma troisième, mais je pense que celle-ci, je vais vraiment la savourer. 100% joie, c'était une journée incroyable. Chantait le public qui scandait tout l'amour pour leur biathlète français, mais ça met une certaine pression aussi. Et le stress finalement m'a permis de mettre cet engagement sur la piste comme au niveau du pas de tir. Et je suis très très fier en tout cas d'avoir fait cette course à ma manière et de gagner. Ça me rend heureux.
Benoît Lallemand, ils sont là, les Français au biathlon. Il va falloir compter sur eux pour les Jeux de Pékin.
Et oui, alors on se demandait qu'est-ce qu'allait devenir l'équipe de France après Martin Fourcade. Ben, on voit la meilleure des réponses, c'est celle-ci. Et puis je voudrais souligner quand même cet incroyable week-end ou fin de semaine au Grand Bornand. C'est devenu la mecque du biathlon. Je crois qu'il y a eu plus de 60 000 personnes en 4 jours.
C'est génial, il faut y aller une fois dans sa vie là-bas.
Si vous ne savez pas quoi faire, franchement, j'ai un conseil à vous donner, allez au Grand Bornand, voir de la Coupe du Monde et peut-être les championnats du monde. Parce que vous en souviendrez toute votre vie.
On parle aussi de Julia Simon qui a pris une belle deuxième place de la Mastart de ce Grand Bornand, une course remportée par Elvira Heuberg.
Il y avait du ski aussi. Mathieu Fèvre est passé à côté du géant Altabadia.
Oui, l'équipe de France d'handball n'a pas été la seule à sombrer dans ce dimanche sportif. Mathieu Fèvre était en tête de la première manche du géant d'Altabadia en Italie, mais le Niçois s'est effondré. Il ne prend que la 16e place, juste derrière un tout aussi décevant Alexis Pinturo qui termine 15e. C'est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui l'emporte.
On a revu Peng Shuai.
Oui, c'est une journaliste d'un média d'État qui a publié.
On l'a revu.
Une vidéo, on voit une vidéo et une photo de la joueuse de tennis chinoise. Elle est notamment avec Yao Ming pour discuter de basket, certainement la star locale. Le géant basketteur chinois. On rappelle que l'ex numéro 1 mondial de double a disparu pendant 3 semaines début novembre après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre chinois de viol. Voilà, donc c'est une sombre histoire.
De la natation, il y a les championnats du monde en petit bassin.
Et une première médaille pour la délégation française. Beryl Castillo décroche l'argent sur 100 mètres 4 nages. Maxime Grousset prend lui.
Gastaldello.
Pardon ?
Gastaldello.
Gastaldello, qu'est-ce que j'ai dit ?
Beryl Castillo, mais c'est pas grave.
Ça marche aussi.
Allez, on y va.
Sixième du 50 mètres nage libre.
Des mondiaux auxquels ne participe pas un certain Florent Manodou, le vice-champion olympique du 50 mètres, que j'ai retrouvé d'ailleurs cette semaine à Tignes lors de la 20e édition des Étoiles du Sport.
RTL. On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Bonsoir Florent Manodou.
Bonsoir.
Ravi de vous recevoir pour On refait le sport. Vos copains de l'équipe de France sont à Abu Dhabi aux mondiaux.
Oui.
Vous n'y êtes pas, pourquoi ?
Parce qu'il y avait les Étoiles du Sport cette semaine. Et étant donné que je suis dans une après-Jeux Olympiques un petit peu plus détente, j'avais envie d'être dans le partage un petit peu ici aux Étoiles.
C'était important de faire un break après Tokyo ?
Je pense que c'est toujours important de faire un break après les Jeux. Et je trouve encore plus là parce que, pour ma part, le contexte Covid, quand on est dedans, on se dit « bon, ça va ». Mais c'est quand même compliqué d'avoir toujours des restrictions, de pas avoir du public, de pas profiter. Alors déjà que le sport, c'est pas forcément facile tous les jours. Quand on en compète, c'est bien. Mais là, on n'a pas pu vraiment partager. Et des moments comme ça aux Étoiles, c'est quand même super agréable. J'en ai pas fait beaucoup pendant ma carrière. J'ai beaucoup privilégié l'entraînement. Et là, je me régale. Je me régale vraiment. Et il reste que 2 ans et demi avant les Jeux, donc c'est bien.
Pour continuer, vous avez décidé de quitter Marseille. Il y avait un ras-le-bol, vous étiez arrivé au bout de l'histoire avec Marseille ?
Oui, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, je pense que c'est bien de bouger, même si j'aime cette ville profondément et j'aime ce club profondément. D'ailleurs, je reste licencié là-bas. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de construire quelque chose aussi avec ma fiancée qui habitait chez moi, qui était venue dans mon club. Là, c'était une décision un petit peu commune. Et voilà, j'ai connu le Marseille de la très grande époque où on bossait dur, on se prenait pas au sérieux et on gagnait des titres. C'était normal à cette époque-là. Et avec le recul, maintenant, quand je me suis entraîné là à Marseille avant les Jeux, c'était forcément différent. Même s'il y avait une très bonne ambiance, des très bons sportifs, c'était une ambiance complètement différente. Et c'est quelque chose que je ne retrouverai jamais dans ma vie, c'est sûr. Parce qu'ils étaient tous fous déjà. Et j'ai eu la chance de faire partie de ça. C'est comme avoir la chance de faire partie des Bargeaux, des Costauds, des experts, etc. C'est vraiment des histoires. Et voilà, j'ai envie de bouger. J'ai envie de rester dans le sud pour le soleil. J'ai envie de prendre du plaisir dans un bassin extérieur. Il y a des super infrastructures. Les coachs sont jeunes, c'est des amis.
Vous êtes à Antibes, hein, on va le dire.
Oui,
pour
je suis
les...
à Antibes. Hein. Ouais.
Et c'est des copains qui vous ont... avec qui vous vous entraînez.
C'est des copains qui n'ont pas énormément d'expérience à très haut niveau. Mais je pense que je peux leur apporter mon expérience de ce que moi j'ai vécu sur l'entraînement, sur l'approche des compétitions, sur les affûtages, des choses comme ça. Et j'aime les jeunes coachs parce que les jeunes coachs sont tout le temps en recherche.
Ils ont peur de rien.
Voilà. Et ils ont envie de progresser, de s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les jeunes coachs. J'ai été beaucoup avec des jeunes coachs. Je suis vraiment au centre du projet, mais il y a aussi tous les gens qui m'aident, qui se connaissent autour. L'ostéo, le kiné, mon préparateur mental, voilà, tout le monde se connaît, il s'appelle sans problème. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis très longtemps.
Et vous y êtes avec votre fiancée ?
En plus, mais elle n'est pas encore arrivée, mais elle arrivera en janvier, j'espère.
Mais c'était un projet commun, oui. D'être tous les deux là-bas.
C'est elle qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Qui m'a dit pendant mes vacances à Copenhague après les Jeux.
Ouais. Elle est danoise, hein, Pernille Blume, oui. Elle est médaillée d'argent aussi, comme vous.
Ouais, championne olympique en 2016, c'est sur ça. La même distance. Elle m'a dit, est-ce que tu te vois habiter ailleurs qu'à Marseille ? Et moi, j'aime pas trop qu'on me brusque. J'aime bien quand l'idée vient de moi. C'est un petit défaut. Et je lui ai dit, mais je suis en train de faire les travaux dans la maison. J'ai acheté un appartement à Marseille. Et après, elle m'a exposé ses idées sans trop me brusquer parce qu'elle me connaît très bien. Et en fait, après, j'ai pris ce projet-là. J'ai l'impression que c'était mon projet. Et je savais quelques mois avant, en ayant fait un stage à Antibes, que peut-être les coachs allaient changer, qu'elle serait mieux certainement anti parce qu'il y a une communauté scandinave plus importante, des vols directs pour Copenhague, et c'est important. Donc c'est un projet commun, on va construire ça ensemble, et je pense qu'ensemble on va aussi faire progresser les coachs d'Antibes, et c'est un beau projet.
Le mariage, c'est pour quand ?
Bah, vu qu'il y a eu beaucoup de reports de mariage à cause du Covid, j'ai envie de faire un beau mariage qui nous ressemble. J'ai envie qu'elle soit heureuse dans un beau lieu. Alors je sais qu'elle veut le faire dans le sud de la France, déjà, ça, je suis content. Mais j'ai pas envie non plus de me presser. Voilà, je sais qu'il faut s'y prendre longtemps avant. Et là, il y a les Jeux. Elle aussi, elle est en optique, Jeux Olympiques. Alors si on peut le faire à l'été 2023, on le fera, ce serait génial. Mais pour moi, il n'y a pas de règle en fait. Être fiancé 3 ans ou 1 an ou 5 ans. Au final, c'est pareil, on peut profiter aussi des fiançailles, et donc c'est ce qu'on fait en ce moment.
Qu'est-ce qui vous motive encore pour aller chercher une médaille et peut-être le plus beau titre à Paris en 2024 ?
De faire une compétition comme les Jeux à Paris, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Je me rappelle encore d'où je suis. J'étais chez un copain quand ils ont annoncé que c'était Londres 2012 et pas Paris. Et j'étais très déçu, forcément, parce que je me projetais pas, je sais plus quand ils ont... Ça va être en 2005, 2006, 2007.
Ouais,
un truc comme ça, ouais. Ah, c'était il y a 15 ans, donc on se projette pas 15 ans après. On se dit pas, bah, il y aura peut-être 2016, 2020, 2024. Et j'étais très déçu, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être eu l'opportunité de faire les Jeux dans mon pays. Et je trouve ça très dommage que ce soit à Londres. Ça m'a souri, mais c'est quelque chose d'unique qui peut faire peur. Bruno Fratus, qui a fait troisième, m'a dit qu'il fallait bien que je me prépare quand même, parce que c'est une pression encore différente, parce qu'il est brésilien et qu'il les a vécus à Rio. Et le challenge de pouvoir faire une quatrième médaille sur 50, c'est jamais arrivé encore. Alors ça va être compliqué, hein. Plus on approche des longues séries, plus elles se cassent, les séries. Mais voilà, c'est un beau projet, la belle cérémonie d'ouverture qu'on va avoir, plus voilà, la liesse populaire qu'il y aura autour de ça. Moi, j'ai vécu, je suis pas du monde, à Barcelone. Déjà, j'avais l'impression que c'était en France.
Ouais.
Et j'ai chanté la Marseillaise avec mes potes du relais. C'est le meilleur moment de ma carrière. Donc j'espère pouvoir faire vraiment une médaille et de mettre le drapeau français à côté d'autres drapeaux quand je serai sur le podium, j'espère. Vraiment.
Les fêtes de Noël, elles se passent où ?
Cette année, elles vont être à Bordeaux, comme l'année dernière.
Chez la Frangine, donc ?
Ouais. Enfin, pas à Bordeaux, mais sur le bassin d'Arcachon. Je vais pouvoir voir son troisième enfant, qui est né en janvier. Donc il aura 11 mois et demi. Je ne l'ai pas vu avec toutes les préparations des Jeux, le Covid, etc. C'était quand même assez compliqué. Donc j'ai hâte de partager ces moments-là en famille. Je vais passer le nouvel an au Danemark. J'essaie de faire un peu plaisir à tout le monde et me faire plaisir aussi. Et ensuite, je finis mes vacances en Finlande. Je vais aller voir les aurores boréales avec ma fiancée. C'est mon cadeau de mes 30 ans, mais on peut enfin y aller, donc on va en profiter.
La natation, on vous revoit quand dans un bassin, en compète ?
Je pense que ce sera le meeting de Nice, début février.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous.
Plutôt relax, hein, Benoît Lallemand, Florent Manaudou.
Toujours un plaisir de l'entendre parler. Après, on aime bien le voir nager aussi, donc
vivement 2024. Ça va venir vite. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages de sport du Parisien ?
Un peu de hand, évidemment, avec la déception de cet argent un peu amer du PSG, ce soir en coupe, et puis du biathlon, parce que c'est bien le biathlon.
Et Lina ? Lina Montlhéry ?
Oui, évidemment, aussi.
Le Parisien retrouvé dès 23h30 pour les abonnés numériques. Notez sur vos agendas, le service des sports vous donne rendez-vous dimanche prochain, 18h30, 20h, pour découvrir le champion France RTL Sport de cette année 2021. L'occasion pendant ces 90 minutes de revenir sur les grands moments sportifs de ces 12 derniers mois. Émotion garantie. Passez de belles fêtes de fin d'année. Dans un instant, vous retrouvez les copains pour RTL Foot. Vous écoutez RTL, il est 20h.